Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé mardi dernier le traité d'Aix-la-Chapelle. 56 ans, jour pour jour, après que le général de Gaulle et le chancelier Adenauer aient scellé la réconciliation franco-allemande avec le traité de l'Élysée. La date et le lieu n'ont pas été choisis au hasard, puisque Aix-la-Chapelle était la capitale de Charlemagne, qui régna sur des territoires s'étendant de Bayonne à Budapest, en passant par Hambourg. La réconciliation acquise avec le traité d'Aix-la-Chapelle, il s'agit aujourd'hui d'insister sur la convergence entre les deux pays, par exemple en matière de défense, d'économie ou encore au niveau transfrontalier. Mais pour les deux dirigeants français et allemands, ce traité devrait aussi contribuer à garantir l'unité européenne face à la montée des populismes. Il ne s'agit en aucun cas, par contre, de placer la France sous la souveraineté de l'Allemagne, comme l'a laissé entendre Marine Le Pen et quelques autres politiciens français, ni l'inverse d'ailleurs. L'Alsace et la Lorraine resteront bien françaises et la Sarre allemande. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Sabine Tillet.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche et présidente de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale. Votre histoire, c'est une histoire très franco-allemande. Vous êtes née allemande, vous êtes venue en France et vous avez épousé un monsieur Tillet qui était français. Vous êtes devenue française.
Tout à fait.
Et vous êtes devenue députée française de la République française.
Je dirais, dans mon histoire, se reflète un peu l'histoire du traité de l'Élysée et du traité de l'Aix-la-Chapelle aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, c'était un grand moment d'avoir pu y participer.
Et évidemment, vous étiez présente à l'Aix-la-Chapelle, on va y revenir. Bonjour Hans Stark.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes, c'est pompeux, ça s'appelle le CERFA, si
on peut faire plus court,
qui dépend de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et vous êtes par ailleurs professeur à la Sorbonne. Bonjour Claire de Mesmen.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme franco-allemand de la DGAP. En français, on appelle ça l'Institut allemand de politique étrangère. En allemand, ça se dit comment DGAP ?
Ça se dit la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. C'est tout aussi beau qu'en français, non ?
Ça se dit très très bien, c'est très joli. Merci d'être en ligne de Berlin. Vous venez de publier un livre très intéressant qui s'appelle « Idées reçues sur l'Allemagne ». C'est vrai que les Français ont beaucoup d'idées reçues sur l'Allemagne. Et je pense que c'est vrai de l'autre côté. Les Français, les Allemands ont quelques idées bien reçues et bien en eux sur la France. Ce livre vient de sortir, il est publié au Cavalier Bleu. Et à vos côtés, Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne, lui aussi bien évidemment en ligne de Berlin. Alors, Sabine Tillet, Claire de Mesmer, Hans Stark, vous étiez tous les trois à Aix-la-Chapelle mardi dernier. Hans Stark, est-ce que vous avez eu l'impression d'assister à un moment d'histoire ?
Bien sûr, c'est un moment d'histoire. Si jamais on donne vie à ce traité, comme l'a dit Angela Merkel elle-même, ce traité est un cadre. Hein, et maintenant, il faut insuffler une vie de tous les jours. Il faut le faire vivre sur le plan politique, économique, transfrontalier, culturel, etc. Donc, c'est un petit appel à ceux qui vont suivre Madame Merkel pour en faire quelque chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce que elle est dans sa 14e année. Et elle a signé ce traité franco-allemand. Adenauer était dans sa 14e année, pardon. Il a également signé un traité franco-allemand, mais il est parti la même année.
Ah, donc il y a une espèce de...
Je m'arrête là avec
vous arrêtez là au niveau des parallèles. Sabine Tillet, vous qui êtes franco-allemande, vous avez un ressenti particulier quand vous étiez là à Aix-la-Chapelle, un moment d'émotion intense?
Bien sûr, j'ai d'abord eu une émotion à titre personnel, puisque je suis née à 1h30 de distance d'Aix-la-Chapelle, donc dans mon autre chez moi, puisque j'ai dit souvent, je vis en France-Allemagne. Les deux pays ont une grande importance pour moi. Et de les voir maintenant dépasser ce stade de réconciliation, d'aller vers autre chose, c'est très important pour moi aussi en tant que président de la Commission des Affaires Européennes. Je dirais 1963, c'était le moment de l'audace. 2019, c'est le moment d'une nouvelle dynamique.
Claire de Mesmer, est-ce que le fait d'avoir signé ce traité à Aix-la-Chapelle est particulièrement riche en symboles pour vous ?
Oui, bien sûr, c'est un symbole, vous l'avez rappelé tout au début de cette émission, c'est un symbole important. Je pensais qu'on aurait pu prendre une ville à l'est de l'Allemagne, parce qu'au moment où le traité de l'Élysée a été signé en 1963, l'Allemagne était uniquement occidentale, donc le fait de montrer aujourd'hui que l'Allemagne a changé, que l'Europe a changé pour s'ouvrir vers l'est, cela étant, je trouve que Aix-la-Chapelle est un très beau symbole, et que voilà, il y a beaucoup de potentiel aujourd'hui avec ce traité.
Pascal Thibault, est-ce que vous diriez que ce traité est révolutionnaire ou il est simplement dans le prolongement du traité de l'Élysée qui a été donc signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer le 22 janvier 1963 un nouveau traité ou le prolongement d'un traité pour vous?
Non, révolutionnaire, je ne le dirais pas. Je pense qu'il y avait quand même quelque chose de plus volontariste, à moins de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de faire un traité comme celui de l'Élysée à l'époque où les pionniers, déjà depuis quelques années, du franco-allemand étaient à l'œuvre. Je dirais qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont évoqués qui n'étaient pas contenus dans le traité de l'Élysée. Il s'agit par exemple des technologies de l'avenir par définition, mais aussi sur d'autres dossiers. Je pense que, comme le disait Hans Stark, tout dépend aussi, on peut critiquer les insuffisances du traité ou au contraire trouver qu'il va plus loin, mais après l'enjeu c'est de faire en sorte que le traité se traduise dans les faits. Si ce n'est pas le cas, il restera un beau parchemin pour les archives respectives de la France et de l'Allemagne. Maintenant il faut passer à l'œuvre et le mettre en application.
En tout cas pour le président français, ce traité était à la fois une urgence et une évidence.
Unité, solidarité, cohésion, ce sont les maîtres mots du traité que nous signons. L'Europe ne survivrait pas à une désunion, elle en mourrait. La nouvelle responsabilité franco-allemande pour l'Europe est bien là. Lui donner les instruments de sa souveraineté en matière de défense, de sécurité ou d'accès à l'espace, en matière migratoire, face aux transitions écologiques et numériques. Les conflits entre la France et l'Allemagne ont mis le monde à feu et à sang. Et il était de notre devoir d'y mettre un terme définitif. C'est chose faite. Notre ambition commune, désormais, doit être que l'Europe soit le bouclier de nos peuples contre les nouveaux tumultes du monde.
Alors si on entre un peu dans le détail de ces traités, 28 articles sur environ 13 pages, une volonté commune, notamment dans le domaine de la défense, et la chancelière Angela Merkel a particulièrement insisté sur ce thème de la défense.
Nous nous engageons à développer une culture militaire commune, une industrie de l'armement commune, une politique commune en matière d'exportation d'armement. À travers cela, nous voulons apporter notre contribution à l'avènement d'une armée européenne. Mais tout cela ne sera possible que si nous faisons cela simultanément avec une coordination de notre politique étrangère. Et nous savons tous les événements qui se produisent chaque jour, nous savons ce que cela veut dire si nous nous engageons à assumer ensemble et en commun nos responsabilités en matière de politique étrangère et défendre en commun nos intérêts. Et cela ne sera possible que si nous coordonnons mieux notre politique de développement et nous pensons tout particulièrement à notre continent voisin, l'Afrique. L'enjeu, c'est notre avenir dans ce traité.
Sabine Tillet, cette prise conscience de la défense qui est importante d'un point de vue allemand, c'est relativement nouveau.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un élément central de cette actualisation, je dirais, du traité de l'Élysée, parce que là, on rentre dans une phase opérationnelle. Et la défense est un sujet entre la France et l'Allemagne qui est très important, parce qu'il y a des réelles divergences. Et si on veut parler d'une défense européenne, on a besoin de la complémentarité dans l'approche entre la France et l'Allemagne.
Ça vous paraît des petits pas significatifs? Alors, les Allemands et les Français sont déjà d'accord sur l'idée d'avoir le char du futur en commun, l'avion du futur en commun, mais cette idée d'avoir finalement de créer une armée européenne, le mot armée européenne dans la voix de la chancelière Merkel, c'est effectivement une évolution.
Il y a une évolution et surtout quand on voit l'histoire de l'Allemagne et la société civile en Allemagne est très frileuse en ce qui concerne la défense, donc c'est un très très grand pas en avant et à la limite quand on, c'est presque... Je suis prudente avec les mots comme historique, mais je me dis quand même qu'on évoque la défense, qu'on se promet une assistance mutuelle entre la France et l'Allemagne. Au vu de l'histoire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Même si cette assistance mutuelle existait à travers l'OTAN et l'article 5 de l'OTAN, c'est à la fois une façon de réaffirmer cette solidarité et en même temps, c'est pas complètement nouveau.
Non, mais par contre, ça permet aussi de se dire qu'est-ce qu'on entend par autonomie stratégique, ce qui est quelque chose de très très important pour nous les Français. Comment on va pouvoir approcher cette question-là avec nos amis allemands au profit de l'Union européenne.
Hans Clark, alors évidemment, des progrès en matière de défense, d'économie et de diplomatie. J'aurais un petit mot sur l'économie. Dans le domaine de l'économie, la pensée profonde forgée par l'histoire est très différente. Hein. En Allemagne, on est très sensible à la stabilité budgétaire. En France, un budget, ça doit plutôt faciliter la croissance. Comme dirait Claire de Mesmer, qui vient de publier Idées reçues sur l'Allemagne, de part et d'autre du Rhin, par exemple, le mot austérité, ça n'a pas le même sens en Star, par exemple, hein, pour prendre ce mot.
Le mot austérité, on l'emploie très peu en allemand d'abord. On emploie plutôt le mot de discipline. Et le mot rigueur, qui a une connotation péjorative en France, est au contraire apprécié en Allemagne parce que c'est synonyme de sérieux. Le problème que nous avons vécu, je pense, en franco-allemand depuis l'unification de l'Allemagne et depuis la fin de la guerre froide, c'est que les deux pays ont de plus en plus divergé, autant sur les questions de défense et des questions militaires, vous l'avez abordé à l'instant, que sur le plan économique. Dans les années 80, sur le plan des résultats économiques, les deux pays étaient beaucoup plus convergents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les principaux résultats en termes de croissance, en termes de commerce extérieur, en termes de compétitivité industrielle, en termes d'emploi des jeunes, et j'en passe, montrent finalement des écarts croissants entre nos deux pays, qui sont en même temps le cœur de l'eurozone. Et là, il s'agit d'une contradiction qui, à la longue, devient insupportable, à la fois à l'échelle franco-allemande, mais aussi à l'échelle de la zone euro. Et donc, il faut absolument surmonter ce qui nous sépare, nos philosophies économiques différentes, nos cultures économiques différentes, nos approches en matière de politique budgétaire, pour arriver à faire converger nos économies nationales. Il faut à la fois, je pense, écouter un peu le souci français de ne pas sacrifier le marché intérieur. Et il faut que la France écoute aussi l'Allemagne en se disant que l'international, c'est une chance et la mondialisation n'est pas un danger.
Claire de Mesmer, ça devrait se traduire concrètement par des rencontres entre des économistes allemands et des économistes français au sein d'un comité commun.
Oui, tout à fait. Le traité d'Aix-la-Chapelle prévoit de confirmer des mécanismes de concertation. Certains existent déjà, d'autres vont être créés. Et l'idée est d'abord de se parler. Alors, vous posiez la question tout à l'heure de savoir si le traité est spectaculaire. En tant que tel, non, il n'est pas spectaculaire, puisqu'il redit, il confirme ce que disait déjà le traité de l'Élysée, à savoir, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute aussi, parce que nous avons des cultures politiques qui sont très différentes, qui touchent à des questions éminemment stratégiques, dans le domaine, en effet, de l'économie, comme le disait Hans Stark, dans le domaine de la sécurité et de la défense, comme le disait Sabine Thillet, ou dans le domaine énergétique. Donc on peut multiplier les exemples. On est aujourd'hui face à des cultures très différentes, et il s'agit de créer des ponts entre ces cultures, des passerelles. Donc, dans ce sens-là, le traité d'Aix-la-Chapelle est dans le prolongement direct du traité de l'Élysée. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est absolument indispensable aujourd'hui de se parler, parce que ce n'est que si nous avons une analyse commune que nous arriverons à agir en commun. Donc il faut d'abord faire ce premier pas. Et sur la sécurité et la défense, ça passe d'abord par une lecture des risques communs.
Alors, Claire Dumesson, mais je reprends un peu le thème de votre livre, Idées reçues sur l'Allemagne aux éditions du Cavalier Bleu. 56 ans de dialogue entre la France et l'Allemagne, et encore au niveau, je ne dis pas au niveau des citoyens, mais au niveau le plus élevé, des gouvernements, des ministres, qui se rencontrent, qui se parlent souvent, hein, il y a énormément de relations entre la France et l'Allemagne, toujours des incompréhensions.
Oui, en effet, il y a des échanges. Je pense que les échanges franco-allemands fonctionnent bien, puisque à tous les niveaux politiques, administratifs, on se parle, au niveau parlementaire, au niveau de l'exécutif, au niveau des ministères. Donc il y a vraiment des canaux de communication qui se sont établis. On connaît le numéro de téléphone du partenaire de l'autre côté du Rhin. Mais ça ne suffit pas, parce que justement, on est souvent dans des cultures qui relèvent du non-dit. Ce sont des choses qui ne sont pas formulées. La question, par exemple, justement, de la rigueur budgétaire, de l'orthodoxie budgétaire, de la discipline budgétaire, quel que soit le terme qu'on emploie, ça renvoie à des expériences historiques, collectives, qui sont profondément ancrées dans les inconscients collectifs des deux pays et qui sont mobilisées sans que forcément on ait un processus réflexif.
Alors, il y a un mot qu'on aime bien en France, c'est le mot abattement, sous-entendu abattement fiscal, et je crois que c'est un mot totalement intraduisible en allemand, abattement fiscal, ou en tout cas, c'est pas évident, je sais pas qui veut répondre, peut-être en start, peut-être.
Je suis pas un spécialiste de fiscalité, mais les Allemands sont pas mauvais non plus pour être inventifs sur le plan fiscal, parce que je pense que la littérature de droit fiscal en Allemagne, c'est des bibliothèques entières, et je pense même que c'est sans doute le pays le plus riche en termes de possibilités sur le plan de la politique fiscale. Donc là, finalement, nous avons une culture très proche, même si nous ne parlons pas de la même chose.
Pascal Thibault, vous qui êtes impliqué dans la vie allemande, qui est biculturelle par essence, comment vous expliquez que les Français et les Allemands se parlent autant et se comprennent finalement si mal, parfois ?
Il y a à la fois effectivement, sans doute pas, il n'y a pas deux sociétés, deux pays dans le monde entre lesquels il y a autant de liens, ça c'est clair, non seulement au niveau politique, c'est ce qu'a évoqué à l'instant Claire de Mesmer, mais aussi au niveau des sociétés civiles. Mais effectivement, il y a un certain nombre de conceptions qui sont fortement enracinées dans l'histoire et la culture et qui ne peuvent pas être non plus de toute façon remises en cause. Il y a effectivement aussi des idées reçues, des deux côtés du Rhin, qui, on le voit parfois, lorsque les divergences deviennent un peu plus visibles, ou les divergences se transforment en début de crise ou en crise, on a parfois l'impression que certaines idées reçues ou préjugés refont un peu surface, ce qui montre un peu qu'on a aussi, malgré l'importance de ces relations, on demande parfois si ce n'est pas un vernis qui finalement peut rapidement être égratigné et laisser place à certains vieux démons, dirons-nous.
Cette incompréhension entre les Français et les Allemands, vous les vivez au quotidien, vous êtes députée française, les députés français connaissent mal ce qui se passe en Allemagne, et c'est probablement la même chose du côté allemand. Et là, avec ce traité d'Aix-la-Chapelle, une nouveauté, il va y avoir la création d'une, je l'appelle une assemblée franco-allemande, je ne sais pas si c'est le bon mot.
Ouais, il y aura le complément, justement, au traité d'Aix-la-Chapelle, qui d'ailleurs, dans son préambule, y fait référence. C'est une assemblée parlementaire franco-allemande. Nous avons travaillé quasiment pendant 9 mois. Nous étions 18 députés, 9 députés du côté allemand, 9 députés du côté français, pour mettre en place cet accord parlementaire qui sera signé au mois de février, et on envisage une réunion constitutive de cette assemblée au mois de mars. Parce qu'il y a une chose qui a été dite tout à l'heure, c'est vrai, au-delà du fait de se parler, il faut créer un terrain de confiance, et surtout aussi, il faut qu'on apprenne les méthodes de travail de l'autre. Et quand on a travaillé pendant ces 9 mois, c'était très intéressant, parce qu'on a vu, il y a un État central, un État fédératif, il y a des outils juridiques de part et d'autre qui se correspondent pas forcément, donc il est très important de trouver des complémentarités, je dirais, dans la discussion pour être à la même hauteur de vue pour pouvoir avancer. Et ça, c'est un côté vraiment novateur, parce que l'échelon parlementaire jusqu'alors n'est jamais monté véritablement au créneau pour...
Il devrait y avoir combien de participants à cette assemblée
Donc il y aura 50 parlementaires de part et d'autre, donc 100 parlementaires, qui doivent refléter les majorités en présence dans leur assemblée respective, mais qui doivent également couvrir tous les champs politiques. L'idéal, ça serait des représentants de chaque commission. Mais là, on sorte déjà un problème, 23 commissions du côté du Bundestag, 9 commissions du côté français. Mais en tout cas, c'est justement une structure de travail, c'est pas un groupe d'amitié bis qui doit être mise en place, mais une structure de travail pour développer, et là, je trouve que le mot allemand, c'est presque intraduisible en français, mais peut-être on peut m'aider, pour développer une Streitkultur.
Une culture de la dissension, une culture de la divergence.
De la divergence, mais dans le but de trouver des solutions constructives.
C'est-à-dire, on ne se sépare pas sur un terrain de mésentente, mais au contraire, on profite de la divergence pour arriver à des compromis.
Ouais. Claire de Mesmer à Berlin, vous êtes d'accord avec cette traduction d'Anstark?
Oui, je me disais qu'il faudrait compléter. Je suis toujours d'accord avec Hans Schark, mais je pense qu'on pourrait compléter sur la Streit- und Kompromisskultur. Yeah. Donc on débat sur le fond. On peut vraiment même être en véritable désaccord, et ça peut être très très compliqué. Mais à la fin, on arrive à un compromis. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui caractérise la culture politique de l'Allemagne, mais qui caractérise aussi la coopération franco-allemande.
Alors compromis, c'est vrai que c'est un mot relativement intraduisible en France, où on confond un peu compromis et compromission. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé mardi dernier le traité d'Aix-la-Chapelle, 56 ans, jour pour jour après que le général de Gaulle et le chancelier Adenauer aient scellé la réconciliation franco-allemande avec le traité de l'Élysée. La réconciliation acquise, il s'agit aujourd'hui pour la chancelière et le président d'insister sur la convergence entre les deux pays, par exemple en matière de défense, on l'a vu, d'économie, on l'a abordé, ou encore au niveau transfrontalier. Mais dans l'esprit des deux dirigeants, ce traité devrait aussi contribuer à garantir l'unité européenne à un moment où les populismes la menacent. Je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints. Sabine Tillet, elle est députée La République En Marche, elle est la présidente de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale et elle a la double nationalité, elle est née allemande, elle est devenue française et donc députée de la République Française à l'Assemblée Nationale. Hans Stark, secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes et professeur à la Sorbonne. Claire de Mesmet est en ligne de Berlin, elle est responsable du programme franco-allemand de l'Institut allemand de la politique étrangère, j'ai préféré le dire en français. Son dernier livre, Idées reçues sur l'Allemagne, est paru aux éditions du Cavalier Bleu. Et à ses côtés, Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne, bien évidemment en ligne de Berlin. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Vous avez parcouru pour Courrier International et pour Carrefour de l'Europe la presse allemande au lendemain de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle et la tonalité chez nos confrères d'outre-Rhin est globalement positive.
Oui, par exemple, la Frankfurter Allgemeine Zeitung salue à sa une le partenariat rénové et la volonté des deux dirigeants d'approfondir leur coopération, je cite, pour le bien des Français et des Allemands et, entre parenthèses, de leurs partenaires européens. Mais le quotidien proche des chrétiens démocrates souligne aussi, je le cite encore, « Si Paris et Berlin indiquent la voie à suivre, il n'est pas certain qu'ils parviennent à l'imposer. » Et c'est une allusion évidemment aux États membres récalcitrants à l'Est, au Sud ou au Nord de l'Europe, mais aussi au fait que les deux dirigeants, Emmanuel Macron et Angela Merkel, ne sont pas dans une position de force en ce moment. Angela Merkel est perçue comme en partance de la scène politique allemande et Emmanuel Macron est fragilisé en France.
Alors, ce projet est réaliste, mais est-il assez ambitieux ?
C'est la question que beaucoup se posent. Die Zeit, par exemple, donne la parole à l'économiste Alain Minc, qui revendique la paternité de l'idée de ce qu'il appelait un Élysée 2.0, et renvoie à une tribune qu'il avait signée en 2016 avec l'ex-chancelier Gerhard Schröder en faveur de ce qu'ils appelaient un élargissement du traité de 1963. Leur idée était de sortir de la routine de l'amitié franco-allemande pour relancer la concertation sur l'essentiel, c'est-à-dire les grands enjeux politiques, stratégiques, économiques. Cela devait passer par la nomination à Berlin et à Paris d'un ministre de la coopération franco-allemande qui assiste régulièrement au conseil des ministres de l'autre pays et même que l'un puisse se substituer à l'autre dans les réunions européennes, par exemple.
Il n'en reste pas moins, Daniel, que le traité d'Aix-la-Chapelle présente un caractère historique pour Paris et pour Berlin.
Oui, pour Die Zeit, par exemple, à l'heure du Brexit, c'est très important que ce traité réaffirme la primauté de l'amitié, de la coopération et de l'intégration franco-allemande. Et ce traité prône aussi la recherche du compromis dans tous les domaines où s'affichent des divergences, ce qui est important vu que les obstacles sont tout de même importants. La Süddeutsche Zeitung, par exemple, souligne que il est très improbable que se développe une politique de sécurité commune, car il est difficile de trouver à la fois une approche commune sur les exportations d'armes et une convergence sur les interventions militaires à l'étranger.
C'est mutilé, on l'a compris en écoutant la presse allemande, que ça va être quand même difficile.
Mais bien sûr, rien n'est jamais simple. Mais je dirais, le traité d'Aix-la-Chapelle donne un cadre. Après, il y a des projets concrets, une liste de projets concrets qu'on doit réaliser. Et nous, ce que je disais tout à l'heure avec notre accord parlementaire, on va faire en sorte à ce que nos commissions travaillent beaucoup plus étroitement ensemble, justement. Et je crois que ça, c'est un pas en avant pour créer cette base de confiance. Quand on parle d'exportation, il faut qu'on ait confiance dans les mécanismes de contrôle de chaque pays de l'Allemagne et de la France. Sur les deux, il y a des choses à dire, à la limite. Donc, il faut que aussi les parlementaires soient bien conscients de cela pour trouver des solutions. Pareil, nous, à la Commission des Affaires européennes, une fois que cet accord parlementaire signé, mon homologue ou nos homologues auraient le droit de venir assister à nos commissions, et nous, on aurait le droit d'y aller. Exception faite, il s'agit d'une réunion à huis clos. Mais on veut aller beaucoup plus loin, donc, dans cette coopération.
Convergence et approfondissement, c'est un peu les deux maîtres mots de ce traité d'Aix-la-Chapelle. Approfondissement également en matière de diplomatie. Et à ce propos, je voudrais revenir sur l'incroyable infox. Une infox, c'est une intoxication par la voie de fausses informations. En France, par Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, qui ont déclaré que la France, avec ce traité, allait céder son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, c'est un extrait d'une petite altercation à l'Assemblée nationale mercredi entre Paul Larouturou et les journalistes à l'émission Quotidien, avec d'abord Nicolas Dupont-Aignan, puis Marine Le Pen.
Monsieur Dupont-Aignan, pourquoi mentez-vous sur le traité d'Aix-la-Chapelle?
Et pourquoi vous mentez-vous aussi? Parce que vous êtes un menteur professionnel aussi.
En quoi je suis un menteur professionnel?
Mais certains médias, ni Monsieur Trump, ni Monsieur Poutine, ni Madame Theresa May, ni le président chinois ne partagent leur siège à l'ONU et ne demandent le consentement de l'Allemagne.
Et ils ne vont pas partager le siège à l'ONU. Mais vous dites n'importe quoi. Ils ne vont pas partager le siège à l'ONU. Chacun aura son siège à l'ONU.
Et bien, vous
n'êtes pas dans le traité, vous l'inventez,
ça. Le représentant de M. Macron, les Français ont compris qui vous étiez. Vous êtes le représentant du pouvoir, c'est très normal. Vous êtes la télévision du pouvoir.
Monsieur, je vous en prie. Moi, je vous réponds pas. Écoutez, vous êtes incorrect. Quand vous aurez fait autant d'études de droit que moi, vous pourrez venir me donner des leçons sur la lecture juridique d'un traité. Donc oui, je le répète, je considère que ce texte met en place les conditions d'un véritable partage de notre siège au Conseil de sécurité avec l'Allemagne. La liberté de conscience et la liberté d'expression, je continuerai à me battre pour elle, même si c'est contre le quotidien.
Alors, Samy Dilège, vous êtes ici la présidente de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale, vous êtes la plus apte à répondre. Est-ce que la France est en train de se vendre à l'Allemagne?
Non, pas du tout. Et j'avoue que je m'attendais à beaucoup de choses en politique, moi qui n'ai jamais eu de mandat politique auparavant. Mais je m'attendais absolument pas à ce qu'on puisse proférer des choses fausse à ce point.
Claire de Mesmet, est-ce qu'il y a eu à Berlin des mêmes réactions du côté de l'extrême droite ou de l'extrême gauche avec l'idée que, par exemple, les Français allaient prendre le contrôle de la SAR?
Non, il n'y a pas eu l'équivalent. Il n'y a pas non plus la crainte ancrée dans la population allemande que la SAR parte au profit de la France. Les crispations auxquelles on a assisté, auxquelles on assiste encore en France par rapport à l'Allemagne, sont assez révélatrices d'une obsession de l'Allemagne, qu'on en parle comme modèle ou comme contre-modèle. On n'a pas d'image équivalente de la France. La relation à la France du côté allemand est plutôt apaisée, qu'il s'agisse de la population ou de la classe politique. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à ce genre de déclarations, à ce genre de mensonges qui, en fait, devraient nous faire rire, mais qui sont graves. Donc, en fait, ils nous font plutôt pleurer. Il va falloir qu'on s'habitue parce que ils vont aussi marquer la campagne pour les élections européennes qui vient de commencer.
Hans-Stark, vous voulez réagir?
Oui, alors les populistes allemands ont quand même aussi haussé le ton. Faut pas non plus oublier ça. Voilà. Sauf que sur un autre thème. En France, les populistes disent que l'Allemagne va prendre l'Alsace et la Lorraine. Et en Allemagne, les populistes ont dit les Français vont prendre notre argent. Donc l'argent des Allemands, l'argent des contribuables allemands, quelle horreur, pour payer les banques françaises, italiennes et les autres. Donc l'argent devient un équivalent du territoire, l'argent allemand, du territoire ou des territoires français. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même, hélas, un certain parallèle, parce que M. Gauland, quand même le patron de l'AFD, l'a dit très clairement.
L'AFD, l'Alliance pour l'Allemagne.
L'Alternative pour l'Allemagne.
L'Alternative pour l'Allemagne, qui est le parti d'extrême droite en Allemagne. Alors, ce décalage, ces infos, c'est un petit peu la même chose avec la convergence transfrontalière. L'Alsace et la Lorraine, la Sarre d'un côté, resteront bien françaises ou allemandes, selon les cas de figure, avec cette idée, Sabine Tillet, d'avoir des relations un peu plus intenses. Il y a, par exemple, 50 000 Français qui traversent cette frontière tous les jours pour aller travailler de l'autre côté de l'Allemagne. Je parle des Lorrains et essentiellement des Alsaciens qui vont travailler de l'autre côté de la frontière.
De toute façon, c'est très simple. Nous essayons de faciliter la vie des citoyens qui vivent dans ces zones. C'est très important parce que surtout aussi quand on pense à la construction européenne, parce que beaucoup de problématiques qui sont en quelque sorte mises sur le dos de l'Union européenne sont de l'ordre bilatéral. Donc là, il faut qu'on trouve tout simplement des solutions pour faciliter la recherche du travail, pour faciliter la mobilité, pour faciliter la vie des entreprises. C'est ça le mot-clé, faciliter.
Claire de Mesmet, c'est un aspect important, effectivement, de faciliter les relations pour ces transfrontaliers.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un des points vraiment importants du traité. Je pense qu'il y a au moins trois gros avantages dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Le premier, on en a parlé, c'est sur le symbole, le fait de dire que la France et l'Allemagne veulent coopérer dans un contexte qui est tendu au moment où l'heure est au chacun pour soi en Europe. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, on l'a aussi évoqué, c'est sur la question de la concertation, le fait de se parler davantage et mieux pour arriver à une convergence. Et le troisième point, c'est celui-ci, c'est celui du concret, de la coopération transfrontalière, et qui à mon sens, important d'abord parce qu'il touche au quotidien des citoyens. Et puis, la coopération transfrontalière représente aussi le grand avantage de permettre l'intégration. On arrive par le biais régional à faire de l'intégration européenne là où, au niveau de l'Union européenne, on n'y arrive pas en ce moment en raison des nombreux blocages internes. Et là, avec le régional, eh bien finalement, on redonne aux franco-allemands sa fonction de laboratoire d'intégration au service de l'Union européenne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, où en sont les relations franco-allemandes après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle? Nous sommes avec Sabine Tillet, elle est députée La République En Marche et présidente de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale, avec Hans Stark, secrétaire général du Comité d'études et des relations franco-allemandes, le CERFA, avec Claire de Mesmet, responsable du programme franco-allemand à la DGAP, et avec Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Alors, Hans Stark, on a l'impression que c'était le moment quand même de relancer ces relations franco-allemandes, parce que évidemment, cette coopération franco-allemande, elle existe depuis 56 ans, mais dans la revue La Presse que nous exposait Daniel Renon de Courrier International, on évoquait un peu cette routine franco-allemande, longtemps, les deux pays étaient en décalage. Vous l'évoquiez un peu en termes d'économie, la France a longtemps été un peu hors des clous, notamment d'un point de vue allemand, et puis la chancelière allemande est affaiblie par l'irruption de l'extrême droite et puis la difficulté qu'elle a eue à mettre en place son gouvernement. Et évidemment, Emmanuel Macron est un peu affaibli par les Gilets jaunes. Donc il y a la nécessité peut-être temporelle de relancer cette relation franco-allemande. C'est le bon moment?
Bien sûr, c'était essentiel de le faire maintenant. D'abord, le mot routine. Bien sûr, la routine ne fait pas rêver. La coopération franco-allemande a souvent été une coopération en dents de scie, avec des hauts et des bas permanents. Mais en même temps, la routine, étant donné, justement, l'instabilité est devenue telle que la routine, à vrai dire, assure une certaine forme de stabilité et de continuité. Ensuite, il fallait donner un signal, en quelque sorte. Nous sommes dans un contexte européen marqué par une Italie dont le gouvernement actuel, dont du fil à retordre déjà à la France, mais même aussi à l'Allemagne sur le plan de la politique budgétaire. la Pologne, qui est dans un dialogue difficile avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne qui nous quitte, les États-Unis qui remettent beaucoup en question, y compris peut-être, dans la tête de Trump en tout cas, leur adhésion à l'Alliance Atlantique.
Et ça, c'est très important pour les Allemands.
Et c'est évidemment très important. Et ce traité, finalement, au-delà maintenant des aspects bilatéraux franco-allemands, c'est d'abord quoi ? C'est d'abord une coopération entre deux États. Comment est-ce qu'on peut être contre le fait que deux États voisins coopèrent ? De ce point de vue-là, je ne comprends pas, même avec la meilleure volonté du monde, les réactions de Le Pen, des Poignants et j'en passe. Nous avons, au niveau de la coopération transfrontalière, vous avez d'un côté le Grand Est, qui économiquement est quand même en retard par rapport au reste de la France, notamment l'Ouest, autour de Bordeaux, Nantes, Toulouse, etc., qui est devenu beaucoup plus dynamique.
Le Grand Est, c'est le Grand Est, Champagne, Ardennes, Reims.
Si vous ressentez le besoin de rappeler ce que c'est le Grand Est, donc vraiment, c'est mal connu. Et le Grand Est se trouve face à la région la plus dynamique en Allemagne. C'est pas la Saar, mais c'est le Baden-Württemberg. Nous avons d'énormes besoins aujourd'hui de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Nous avons des entreprises, des petites et moyennes entreprises très dynamiques dans le Baden-Württemberg. Et en face, en Lorraine, c'est économiquement et industriellement totalement sinistré. Donc, si la coopération entre les deux pays peut permettre un véritable partenariat, une véritable, là encore, coopération sur le plan économique et laissant de côté toutes les questions de rigueur et d'austérité, parce que tout ça, c'est très abstrait pour les gens qui sont sur place et qui ont envie de travailler, ce serait une bonne chose. Et de ce point de vue-là, ce traité va dans le bon sens.
Claire de Mesmet, longtemps, la relation franco-allemande a été prioritaire pour les Allemands. Alors, c'est évidemment le fait de l'histoire. Au lendemain de la guerre, le pays est effondré. Une ouverture avec ce traité de l'Elysée pour que l'Allemagne réexiste de nouveau sur la scène internationale. Évidemment, on peut dire qu'elle existait aussi à travers l'adhésion à l'OTAN. Mais est-ce que cette relation longtemps prioritaire l'est toujours pour les Allemands, parce que, comme l'expliquait Hans Stark, le monde a changé. Il y a maintenant les Chinois qui sont très très importants pour les Allemands d'un point de vue économique. Il y a les États-Unis où les Allemands exportent beaucoup de voitures, ce qui fait qu'ils sont pas toujours tentés de taxer fiscalement les GAFA, c'est-à-dire les grandes entreprises du numérique. Est-ce que cette relation, elle est toujours prioritaire pour les Allemands?
Je pense que oui, la relation franco-allemande est toujours prioritaire pour l'Allemagne, mais priorité ne veut pas dire exclusivité. Et il faut bien voir qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau européen et il y a le niveau plus large, international. Sur le plan européen, l'Allemagne est décidée à coopérer avec la France. Je pense qu'il y a un consensus de ce point de vue-là. D'ailleurs, c'est un des points du traité de coalition aujourd'hui. Mais l'Allemagne veut aussi assurer la cohésion de l'Union européenne. Donc, est vraiment très très soucieuse d'avoir de très bonnes relations avec d'autres États, notamment les États du nord de l'Europe, notamment les États à l'est de l'Europe. Et le fait que le Royaume-Uni parte ou quitte certainement l'Union européenne vient encore renforcer ce souci de la cohésion, donc maintenir le lien à l'intérieur de l'Union, et l'un ne doit pas aller sans l'autre, donc le franco-allemand, mais aussi la cohésion européenne. Ce qui peut aussi donner l'impression que souvent l'Allemagne tergiverse, mais c'est justement ce souci d'équilibrer ces deux priorités. Et puis l'autre dimension, c'est la coopération au niveau international. Et là, je pense que c'est une nouvelle dimension qui est apparue ces dernières années parce que le monde change et qu'on a du côté allemand la conscience qu'il faut aussi travailler avec la France, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est un point du traité d'Aix-la-Chapelle. Ça, c'est nouveau.
Et Angela Merkel, dans la petite extrait qu'on a cité, a cité effectivement l'Afrique.
Oui, 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 bien sûr. C'est important maintenant. Ça commence à devenir, c'est très nouveau, ça commence à devenir important pour l'Allemagne. Et là, il y a le souhait de travailler aussi avec la France sur ces questions-là. L'autre question, on l'a évoqué, c'est le multilatéralisme. Travailler ensemble avec la France dans les enceintes multilatérales, à une époque, à un moment où le multilatéralisme est remis en question par des partenaires importants et notamment par les États-Unis. Donc voilà, il y a une ouverture du franco-allemand qui s'est transformée au cours des dernières années.
Pascal Thibault, dans cette idée du traité d'Aix-la-Chapelle, il y a aussi, à travers le couple franco-allemand, de vouloir un peu sauver l'Europe, comme l'a expliqué Hans Stark, menacée par Trump, par la montée du populisme. Est-ce que ça vous paraît réaliste?
Mais en tout cas, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en Europe, même dans une Europe élargie, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué la France et l'Allemagne de traduire des propositions ensuite au niveau européen, surtout à l'heure où les forces centrifuges sont à l'œuvre. Mais malgré tout, c'est important. C'est aussi le symbole qu'a rappelé Claire, effectivement, de ce traité 4 mois avant des élections européennes pas très simples, qui vont montrer sans doute vont se traduire par une poussée des nationalistes, de montrer on peut aussi agir autrement en Europe, en travaillant ensemble, en se concertant, en se coordonnant, en ayant des propositions communes. Et je crois qu'aujourd'hui, le franco-allemand, il ne fait sens que s'il est en faveur de l'Europe et de l'intégration européenne. C'est aussi le symbole fort de ce traité. Reste à traduire tout ça en œuvre. Encore une fois, on l'a dit, les obstacles sont aujourd'hui nombreux et pas évidemment très très simples. En plus, avec deux responsables en France et en Allemagne qui sont dans une position plus faible qu'ils ne l'ont été dans le passé.
Alors, sauver l'Europe, le couple franco-allemand en a-t-il la volonté, la force et les moyens? À sa façon, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, offre un élément de réponse à cette question. C'était mardi dernier à Aix-la-Chapelle.
L'amitié franco-allemande n'est pas un poème, c'est une réalité et d'abord une nécessité. Souvent, presque toujours, France et Allemagne sont d'accord. Je note depuis tant d'années que la complicité, la bonne entente entre vous deux, de temps à autre, irrite les autres. Ils disent voilà, trop c'est trop. Mais l'irritation se transforme en douleur si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord. Et donc, continuer à rester d'accord entre vous, cela nous permet de nous mettre d'accord, nous autres.
Alors, Sabine Tillet, Angela Merkel et Emmanuel Macron avaient pris soin d'inviter à Aix-la-Chapelle de nombreux Européens, évidemment les trois présidents des institutions européennes, le président du Parlement, de la Commission et du Conseil, le président roumain, Klaus Iohannis, qui est à la tête de la présidente tournante de l'Union Européenne, puis d'autres Européens. Cette relation franco-allemande, vue par les petits pays, qu'en pensez-vous? Elle est dominante? Elle écrase un peu ces petits pays ou pas?
Bon, tout d'abord, je veux dire, c'était un symbole fort quand même que ces trois personnes étaient présentes, donc Donald Tusk, Klaus Iohannis et Jean-Claude Juncker. En quelque sorte, ça montrait bien le côté pro-européen du traité d'Aix-la-Chapelle, qui d'ailleurs ne parle plus d'affaires étrangères dans un article, mais bien d'affaires européennes. Européenne, ça aussi, c'est un pas en avant. Bien sûr qu'il y a des craintes dans des États membres plus petits de dire est-ce que ça va pas être le rouleau compresseur. Donc c'est à nous aussi d'être dans le dialogue et d'expliquer pourquoi on le fait. Parce que comme l'explique quelque part Jean-Claude Juncker, effectivement, le fameux moteur franco-allemand à lui seul ne va pas promouvoir l'intégration européenne. Mais si le moteur est grippé, rien ne se passe non plus. Donc on a besoin de cette concertation, on a besoin de cet appel d'air. Pour revenir aussi aux zones, à la coopération transfrontalière, il y a quand même 150 millions d'Européens qui vivent dans les zones transfrontalières. Donc là, cet laboratoire d'expérimentation peut servir aux autres. Si ça fonctionne, ce qu'on est en train de mettre en place, d'autres peuvent s'en inspirer, par exemple.
On start cette relation franco-allemande forte, malgré tout, malgré parfois la routine qu'on a évoquée, marquer les hauts et les bas en fonction des uns et des autres qui seront à la tête de nos pays respectifs, est-ce qu'elle est quand même un peu étouffante pour les autres pays? Alors, il y a évidemment l'humour de Jean-Claude Juncker qui explique bien des choses, mais à votre avis?
Ah ben c'est très juste. Juncker a dit que nos partenaires souvent ne sont pas contents lorsque, en franco-allemand, on va trop loin, trop vite avec nos initiatives bilatérales, mais ils ne sont pas contents non plus lorsqu'il n'y a rien en termes d'impulsion franco-allemande. Donc là, ça c'est évidemment un dilemme. En même temps, il me semble que parfois nos positions initiales, françaises et allemandes, sont souvent si loin les unes des autres, notamment sur les questions économiques, mais aussi sur les questions de défense, que tout naturellement, on intègre les positions d'autres pays qui se reflètent en partie, en grande partie, partiellement, dans les positions françaises ou dans les positions allemandes.
Claire de Mesmes, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Que peut faire vraiment ce couple franco-allemand aujourd'hui, qui essaie de se relancer à travers le traité d'Aix-la-Chapelle, mais qui quand même affaiblit Angela Merkel et sur une pente descendante, elle est en pré-retraite, hein, Emmanuel Macron affaibli par la contestation des Gilets jaunes. Que peut faire le couple franco-allemand en Europe ?
Je pense que le couple franco-allemand, tout d'abord, ne doit pas en rester au symbole. On a aujourd'hui, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, un bel outil. Des instruments ont été créés, le traité va être ratifié, donc ça va suivre son cours, mais il ne faut surtout pas en rester là, et il va falloir passer au concret, il va falloir en effet parler, créer des choses, il va falloir au niveau des régions transfrontalières agir très très vite, et surtout ne pas oublier que le temps du partenariat continue. Mais on est aussi dans le temps de la concurrence avec les élections européennes. Emmanuel Macron et Angela Merkel ne représentent pas les mêmes partis politiques. Donc aujourd'hui, la campagne électorale s'est mise en place. Ce n'est pas un contexte qui est très favorable à une coopération franco-allemande étroite. Donc j'espère que, notamment grâce à ce traité, Paris et Berlin pourront rebondir très vite. Une fois les élections européennes passées, une fois la nouvelle présidence de la Commission européenne aussi établie, pour justement profiter de la nouvelle fenêtre d'opportunité qui apparaîtra juste après. Et puis, juste pour terminer, je pense qu'il est indispensable non seulement de communiquer sur le franco-allemand vis-à-vis des partenaires européens, mais aussi de les intégrer. Parce que certaines positions ne sont pas couvertes par la France et l'Allemagne, notamment sur les questions migratoires et d'asile. Donc là, aller aussi vers les autres.
Une tendance un peu impérialiste, ça nous ramène un peu à Charlemagne et à Aix-la-Chapelle.
Oh là, vous exagérez, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir ce souci. En effet, il faut toujours avoir ce souci en tête.
Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Claire de Mesmes, je rappelle le titre de votre livre, Idées reçues sur l'Allemagne. C'est un livre excellent pour découvrir un petit peu l'Allemagne, vraiment, aux éditions du Cavalier Bleu. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso et Daniel Renon de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio, dans les deux cas, rubrique émission. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Aix-la-Chapelle, Berlin, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.